Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'intelligence artificielle va-t-elle créer un art plus humain ? Edmond de Bellamy ressemble à tous les hommes de son temps, en tout cas ceux de sa condition, un bourgeois de la fin du 19e siècle, comme on peut en croiser chez Balzac ou Flaubert. Son portrait sera vendu aux enchères d'ici quelques jours chez Christie's à New York. Une vente qui fait événement, non pas pour la qualité artistique de l'œuvre, mais pour les conditions de sa création. Le tableau a été produit par une intelligence artificielle. Or, si la publicité faite autour de cette vente engendre quelques polémiques, elle a au moins le mérite de faire à nouveau réfléchir sur la place qu'occupe l'humain, l'artiste, dans un processus de création de plus en plus habité par le numérique, les robots et les algorithmes. Avec cette inquiétude qui pointe à chaque évocation de l'intelligence artificielle, celle-ci ne va-t-elle pas finir par nous échapper, voire pire, par nous effacer ? Mais n'est-ce pas plutôt le contraire qui va arriver ? Car que seraient des machines artistes sans l'imagination, irréductiblement humaine, en tout cas pour l'instant, et sans ceux qui les programment et sans le regard du public pour qui ces œuvres sont créées ? Alors l'intelligence artificielle va-t-elle créer un art plus humain ? C'est la question que nous posons ce soir depuis le Grand Palais à Paris, dans le cadre donc de la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain, qui ouvre ses portes au public demain jusqu'à dimanche. Ce soir, c'est l'inauguration et nous posons cette question en compagnie de trois invités. Samuel Bianchini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes artiste et enseignant-chercheur à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. C'est à Paris. Vous avez un certain nombre de vos œuvres qui sont régulièrement exposées en France et à l'étranger. Pour discuter avec vous, Albertine Meunier, bonsoir.
Bonsoir.
Artiste et ingénieur, vous êtes membre du collectif Data Dada et membre de Data Bingo, qui est une entreprise aléatoire du 21e siècle. Voilà, on aura l'occasion évidemment d'en parler au cours de cette discussion. Et puis troisième invité, Jérôme Neutre, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la stratégie du développement de la RMN, la Réunion des musées nationaux, Grand Palais. Et vous avez été le co-commissaire de l'exposition Artistes et Robots qui a eu lieu d'avril à juillet dernier, justement déjà au Grand Palais. On peut se procurer d'ailleurs le catalogue d'exposition. Alors on va commencer, si vous voulez bien, la discussion par ce qui est peut-être le plus évident, ce qui relève sans doute d'une forme de lieu commun. Mais quand on pense spontanément à art, création artistique versus intelligence artificielle et robot, on a peut-être une première image qui apparaît, ça serait celle d'un robot avec un chevalet qui serait en train de peindre un tableau. Est-ce que si je dis ça, Jérôme Meunotre, je suis complètement à côté de la plaque ou seulement en partie ?
Non, on n'est jamais à côté de la plaque. L'art peut avoir toutes les formes. L'art, c'est précisément la recherche et la création de nouvelles formes. Je crois que, en tout cas, ce qu'on avait voulu montrer avec Artistes et Robots, c'est que ce n'était pas le pinceau qui définissait le peintre. Ce n'est pas, une technique qui définit le geste artistique. Et que finalement, et on le voit d'ailleurs dans cette foire qui a des artistes actuels, émergents, mais aussi des classiques du contemporain, que tout au long, et on peut le voir dans l'exposition Miro, que nous exposons aussi dans les Galeries Nationales du Grand Palais, tout au long de l'histoire, les artistes ont fait feu de tout bois. Et sont des inventeurs de formes. Et en fait, les techniques de l'intelligence artificielle au sens large de ce spectre, parce que l'intelligence artificielle, c'est un concept qui naît en 1956. Et en 1956, quand John McCarthy propose ce concept, ça ne recouvre pas évidemment la même réalité qu'aujourd'hui. C'est beaucoup moins sophistiqué. Mais ça, l'ordinateur, d'une certaine façon, ce grand robot invisible, eh bien, il fournit, et les artistes qui sont là l'incarnent parfaitement, il fournit aux artistes un nouveau matériau pour exprimer leur vision du monde. Et c'est ça qui est intéressant.
Alors, avant d'entrer dans le vif de la discussion, puisque effectivement, on a la chance d'avoir deux artistes autour de cette table, et pour sortir un petit peu peut-être justement de cette image d'Épinal qui serait celle du robot en train de reproduire à l'identique la geste humaine, c'est peut-être intéressant que vous nous expliquiez, par exemple, vous, ce que vous faites, et puisqu'on est à la radio, d'essayer aussi peut-être de décrire un des projets que vous faites. Albertine Meunier, j'ai vu qu'il y a par exemple le projet IA Patatras, je ne sais pas comment il faut le prononcer. Qu'est-ce que c'est que ce projet-là ?
Donc IA Patatras, c'est une vidéo qui a été projetée dans un des grands bâtiments à Paris 13e. Et en fait, c'est une vidéo qui va jouer des dessins qu'une machine en fait réalise et donc qui s'appuie sur un programme, un réseau de neurones qui a été créé pour créer des dessins automatiquement Alors, ils se créent pas tout seuls, spontanément. Ils ont été, pour faire ces dessins de manière aléatoire, en fait, on a besoin d'un jeu de données pour faire ces dessins. Et donc, il y a eu un jeu qui a été inventé par Google qui s'appelle Quick and Draw. Et à cette occasion-là, il y a un grand nombre d'internautes qui ont créé une masse de dessins incroyables. Et ces dessins créés ont permis ensuite de créer le réseau de neurones qui lui-même peut générer tous ces dessins.
Alors ça, c'est un exemple avec IA Patatras. Samuel Bianchini, vous, il y a le dispositif Pleureuse qui est peut-être pas si éloigné que ça, que ce que vient de nous décrire justement Albertine Meunier.
Oui, si ce n'est qu'il y a une approche différente dans la mesure où il y a une confiance dans les matériaux. Avec Pleureuse, il s'agit de plaques de verre sur lesquelles il y a de l'eau qui goutte. Et cette eau, comme sur toutes les plaques de verre, les gouttes d'eau vont courir le long du verre, mais vont s'agripper à certains endroits et former progressivement des images de pleureuses. Et donc il y a un rapport évidemment entre le symbolique et le système de représentation, le système opératoire qui est mis en place. Mais ici, dans ce cas-là, j'ai envie de dire que on cherche à faire appel à ce qu'on pourrait appeler tout simplement l'intelligence naturelle. C'est-à-dire que dans l'intelligence artificielle, je pense que l'intelligence artificielle, elle est l'expression d'un positionnement profondément humain qui voudrait commander, contrôler le monde par le verbe en quelque sorte. Alors que c'est intéressant aujourd'hui de considérer aussi dans la relation indispensable à l'environnement et même notre relation dans l'environnement, de concevoir la puissance d'action de la matière et des environnements et aussi ses formes d'intelligence.
Ouais, alors c'est justement une des raisons pour laquelle on a formulé notre question ce soir de la manière suivante. Est-ce que l'intelligence artificielle va créer un art plus humain ? C'est parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a un côté, alors dans certaines œuvres en tout cas, assez démonstratif sur le plan technique. Je pense par exemple à la reproduction, enfin à la création d'un nouveau Rembrandt. Ça, c'était, je crois, en 2015 ou en 2016. C'est-à-dire à partir d'une intelligence artificielle, on crée un tableau façon Rembrandt à partir de données qui viennent d'anciens tableaux du maître flamand. Et en tout cas, pour le spectateur néophyte que je suis, moi, je pense que je vais être davantage impressionné finalement par la performance technique, c'est-à-dire comment une machine finalement a réussi à faire du Rembrandt, que par la qualité artistique de ce tableau. Est-ce que ça ne sert qu'à ça finalement, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à démontrer l'inventivité technique de l'humain, Jérôme Neutre ?
Mais vous avez tout à fait raison pour cet exemple, puisque précisément c'était une démonstration technique. Je n'ai pas du tout assimilé cette démonstration technique à un geste artistique. C'était une très belle démonstration technique, mais technique. Cette question.
Qu'est-ce qui en aurait fait un geste artistique ?
Mais qu'est-ce que c'est que. C'est justement, l'intelligence artificielle et l'art, ça nous permet de reposer la question de la définition de l'art. Quand vous voyez les artistes, ce sont des gens qui inventent ou réinventent leur art. C'est ça un grand artiste. Or, aujourd'hui, refaire la même peinture que dans les années 50, refaire le même art conceptuel Marcel Duchamp en 1915, c'est de l'académisme. C'est finalement une démonstration technique virtuose. Et les artistes qui s'emparent du numérique, de l'intelligence artificielle, ils créent à partir d'un nouveau matériau pour exprimer une nouvelle vision du monde et créer de nouvelles images. Et en cela, ils sont un vrai geste artistique. Et ce sont de vrais artistes. Pour moi, ce sont vraiment les artistes les plus intéressants. Je suis d'ailleurs personnellement surpris qu'à la FIAC, finalement, il y a assez peu de ces artistes représentés. Mais j'ai vu dans le stand, par exemple, de Sadie Coles, très beau stand, l'œuvre de Borna Samak, un artiste de Brooklyn, qui a peint à partir de son ordinateur une peinture qui est très forte, en mouvement. Peindre avec un ordinateur, c'était aussi le programme que se donnait fin des années 1980 quelqu'un comme Miguel Chevalier, qu'on montrait dans Artistes et Robots, et que j'ai croisé aussi dans les couloirs de la FIAC. Eh bien, voilà un nouveau défi que se donnent des artistes et qui nous permet de voir enfin du nouveau. Et c'est ça qu'on recherche en tant qu'amateur d'art. La pure démonstration technique, elle s'arrête à une démonstration technique. Elle n'est pas la création d'un imaginaire.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jérôme Neutre, Albertine Meunier ? Est-ce qu'il n'y a pas la tentation, justement, quand on manipule ces techniques liées à l'intelligence artificielle, les algorithmes, de justement être dans la technicité avant d'être dans l'artistique ?
C'est un peu le danger de prendre ces objets comme des outils. En fait, il y a deux manières de prendre le sujet de l'intelligence artificielle, en tout cas du machine learning. C'est ou c'est un outil pour fabriquer des nouvelles images, ou c'est une matière qu'on va manipuler et avec laquelle on va créer des nouvelles choses. On va aussi permettre de penser ce sujet-là. En fait, penser l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est assez complexe. Comment l'art, en fait, en tout cas les objets artistiques, peuvent nous aider en fait à penser qu'est-ce que ça peut produire. Ça produit, aujourd'hui, on voit beaucoup d'images, comme dans le cas d'Obvious, des images nouvelles créées.
Alors Obvious, hein, je rappelle, c'est le projet, enfin la série de portraits dont un va être vendu chez Christie's d'ici quelques jours, qui ont été créés, une série de portraits de la famille Bellamy, hein, c'est comme ça que ça a été titulé. Et voilà, et c'est un programme à base d'algorithmes qui a créé cette série de portraits et qui est assez critiqué justement parce que il y a qu'une approche technique. En tout cas, c'est ce que disent beaucoup d'artistes.
C'est ça, et en tout cas, ça montre pas le process total en fait, qui est lui très intéressant. On montre une image finie, mais on aurait pu prendre n'importe quelle image. Il faut savoir que ces programmes de machine learning en fait créent une infinité d'images. Et alors, donc l'artiste lui peut se poser la question de dans toute cette masse d'images créées, laquelle je vais choisir, pourquoi je choisis celle-là. Finalement, en utilisant un jeu de données initial qui permet de créer toutes ces images, est-ce que je peux pas avoir un jeu de données particulier qui va influer sur la création de l'image? Donc en fait, c'est toutes ces questions que posent ces programmes. En fait, on va pas prendre une image parce qu'elle nous plaît esthétiquement. Enfin, il y a tout un processus à penser. Et c'est ça qui est, à mon sens, très intéressant.
Sabelle Bianchini, ensuite Jérôme Neutre. Sabelle Bianchini.
Je crois que ce qu'on remarque aujourd'hui, dans cette, d'abord l'entremêlage de la technique et des arts, c'est pas un problème en soi. Je pense qu'on est dans une société qui est une société fondamentalement technique. Et ça serait un peu difficile de dire est-ce qu'aujourd'hui il y a l'économie d'un côté, les techniques de l'autre, par exemple, ou est-ce qu'il y a le politique d'un côté, les techniques de l'autre. En fait, tout ça est entremêlé. C'est la condition dans laquelle on vit aujourd'hui que de vivre avec ces techniques. Et c'est aussi pour ça que les artistes contemporains travaillent avec ces techniques, à la fois pour les interroger, mais aussi, et ça c'est une position que je crois qu'on peut avoir en recherche, pour les orienter. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un système technique qui est complexe mais ouvert et qui permet de s'emparer de moyens pour les orienter. C'est très important parce que c'est une vraie position dans la relation justement à notre monde.
On peut d'ailleurs dire, Samuel Bianchini, la question de l'apport de la technique dans la création artistique n'est pas nouvelle. Hein, ça.
C'est même le même terme au départ, hein, la techné, l'art de faire.
Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle change? C'est-à-dire, est-ce que ça modifie quand même la question de la création et de la place du créateur dans le processus artistique?
Je pense, en fait, on vit un moment assez intéressant qu'on peut, à la fois, l'intelligence artificielle ou l'intelligence dite artificielle, on pourra revenir sur cette terminologie qui n'est pas sans poser de problème. En tout cas, l'usage de ces machines très puissantes qui permettent justement des calculs et des calculs très productifs nous amène finalement en tant que créateur à changer d'un degré, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de produire des œuvres, il s'agit de produire des conditions qui produisent des œuvres. Et donc, tout à l'heure, on en parlait, Albertine en parlait, sur le fait que, avec ce type de dispositif, avec ce type de machine, on produit plein d'images et finalement, ce qui est proposé à la vente, c'est un arrêt sur image dans le dispositif et ensuite, on va le matérialiser. D'ailleurs, ça pose en soi une vraie question. Est-ce que fondamentalement cet arrêt sur l'image rend compte de l'intérêt du processus qui est mis en œuvre? Peut-être qu'il faudrait se dire que c'est d'abord le processus et les conditions de ce processus qui font œuvre avant d'en avoir une sorte de produit dérivé.
Jérôme Neutre.
Ce qui est intéressant avec toutes ces œuvres combinées ou qui résultent d'une alliance stratégique un peu entre l'artiste et les techniques de l'intelligence artificielle, c'est qu'elles ouvrent un champ de possibles aux artistes. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que enfin, il y a un infini de possibles pour créer de nouvelles images et donner à voir de nouvelles formes. Mais dans l'exposition, par exemple, Artistes et Rebours, on avait voulu poser la question de l'imagination artificielle, un peu en provocation, parce que finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, et Samuel a raison de dire que le terme n'est pas sans poser problème, c'est presque une contradiction dans les termes. Mais l'imagination artificielle, c'était intéressant à partir du moment où, effectivement, aujourd'hui, des technologies assez avancées permettent de créer un dispositif qui crée lui-même un dispositif artificiel, une machine, un système robotique qui crée lui-même des œuvres que l'artiste seul ne pourrait pas créer. Mais pour autant, il faut un artiste pour créer ce dispositif.
Il faut une subjectivité.
Exactement. Et donc ça offre une nouvelle possibilité pour une subjectivité. Si ces techniques ne servent qu'à copier et à faire un Rembrandt, c'est même dommage d'utiliser des techniques qui ouvrent de nouveaux champs possibles pour aller chercher dans le passé les modèles qu'on cherche. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'en créant un dispositif qui, d'une certaine façon, simule ou reproduit l'acte de création artificiellement, eh bien, ça offre aussi un miroir pour penser la créativité humaine. Et c'est ça que je trouvais assez intéressant en voyant et en observant depuis plusieurs années ces œuvres et ces systèmes robotiques qui créent des œuvres, c'est qu'on a enfin la possibilité, c'est comme si on rentrait un peu non seulement dans l'atelier de l'artiste, mais presque dans le cerveau de l'artiste, et qu'on peut réfléchir, que ça nous donne à voir, mais aussi à penser le mystère de la créativité.
Du coup, comment est-ce que vous répondriez à Samuel Bianchini quand il fait cette distinction entre qu'est-ce qu'il faut montrer finalement ? Est-ce que c'est l'œuvre finie, si tant est qu'elle puisse être terminée dans le cadre de certaines œuvres qui sont créées avec de l'intelligence artificielle, parce qu'elles peuvent être en permanence recomposées, ou bien est-ce que c'est le processus de création qui est intéressant ?
Les deux, en général, ça dépend de l'artiste. Il y a des artistes, par exemple, comme Patrick Tresset. Qu'est-ce que c'est l'œuvre ? Est-ce que c'est les dessins qui sont créés par ce qu'il appelle ses étudiants, qui sont ces petites machines avec ses bras articulés qui vont croquer un peu le portrait de telle vanité ou de telle allégorie, ou bien est-ce que c'est le dispositif qui permet donc ce dessin ? Je dirais c'est les deux, et ça dépend de l'artiste. Une fois de plus, il y a les possibles de créer des installations totalement inédites qui parlent de la créativité. Il y a aussi la possibilité, quand on parlait de sélection d'images, Albertine avait raison, finalement, ce qui compte, c'est pas tant, une fois de plus, le procédé technologique que quelle image on va sélectionner et qu'est-ce que ça nous donne, tout ça. Et c'est vrai pour tous les autres médiums. Vous savez, quand la photographie a été inventée, quand le cinéma a été inventé, ça a été les mêmes drames. Alors, c'était pas sur France Culture, mais sur l'équivalent déjà dans les journaux, etc. C'était, il y avait en 1862, la grande pétition de Ingres, puis vite Chavannes, qui disait, mais la photographie ne peut pas être associée à un geste artistique, puisque ce sont pas les mains de l'artiste, c'est l'appareil photo. Or, moi, par exemple, j'ai un très bel appareil photo à la maison, mais c'est pas pour ça que je fais les photos comme Irving Penn ou comme Helmut Newton. Donc on sait que c'est pas la technique qui fait l'artiste. Ces techniques, elles offrent un appareil nouveau, un matériau nouveau, des champs de possibles pour les artistes, mais il faut les artistes pour les utiliser à bon escient.
Mais est-ce que ça ne suppose pas, Albertine Meunier, de pouvoir aussi incarner l'acte de création ? Et comment est-ce qu'on l'incarne dans ce processus accompagné par l'intelligence artificielle ?
Bah, ça peut intervenir à plusieurs niveaux, en fait, parce que l'acte de création, il peut être variable, en fait. C'est vrai qu'on peut vouloir produire une image, vouloir reproduire le processus, vouloir interroger la technologie. Il y a plein de manières de le faire. Après, dans tout ce qui est intelligence artificielle, en tout cas machine learning, il y a tout un mythe, il me semble, de la possible collaboration de l'artiste avec cet outil-là. Bon. Quand on fréquente des artistes qui essayent de s'y frotter, la collaboration, elle n'est pas du tout évidente. On est plutôt dans des confrontations. On essaye aussi peut-être de décaler, d'incarner la technologie, de aussi pouvoir la hacker. Voilà. Donc il y a l'outil en lui-même, enfin, va reproduire sans fin une infinité d'images, par exemple. Et après, comment on intervient ? Est-ce qu'on va vouloir perturber le système ? On parlait de Patrick Tresset, il y a aussi des ratés, finalement, de ces dessins. D'un coup, la machine, en tout cas le programme, il ne sait pas pourquoi, ça va faire une rature.
Comme dans les ateliers de grands peintres que je connais, qui ont des ratés, voilà. C'est pas toujours un chef-d'œuvre.
Ouais, donc peut-être c'est dans le raté aussi que l'incarnation de l'intelligence artificielle est intéressante. Peut-être l'artiste va vouloir piéger aussi... ces programmes-là. Il y a plein de postures possibles et de manières de l'incarner. Aujourd'hui, moi, il me semble qu'on réduit le sujet à la création d'une nouvelle image, enfin, quoi. Mais il y a plein de possibles autour de ce sujet-là. Enfin, donc les robots dessinateurs, et moi personnellement ça m'intéresse plus quand le robot commence à raturer, parce qu'on va s'interroger, mais pourquoi cette machine d'un coup devient humaine pour le coup, parce qu'elle... Elle va rater, quoi.
Est-ce qu'il y a aussi l'idée, alors c'est la question que je vous pose à tous les trois, c'est aussi comme ça qu'on avait formulé au début notre questionnement, c'est-à-dire sur l'idée d'un art qui deviendrait autonome. C'est-à-dire, est-ce que il y a l'idée, par rapport à l'intelligence artificielle, de lui laisser, à un moment donné, le champ libre dans l'acte de création, pour voir, par exemple, jusqu'où cette création peut aller, et est-ce que cette idée d'une liberté est aussi peut-être accompagnée d'une inquiétude qui serait celle de la dépossession de l'acte de création, Samuel Bianchini.
Je pense que le terme d'autonomie est un terme assez intéressant au regard de celui de l'intelligence artificielle. Dans les deux cas, en fait, je crois qu'il faut les considérer aujourd'hui comme des tentatives, comme des perspectives, mais aucunement comme une réalité actuellement. L'intelligence artificielle, on en est très très loin. Et l'autonomie, c'est toujours bien de revenir sur les termes. L'intelligence artificielle, c'est d'abord l'intelligence, donc la faculté d'adaptation. L'autonomie, c'est la capacité à se nommer soi-même, c'est-à-dire à dire « je ». Et quand on voit le processus humain avec le stade du miroir, chez l'enfant, etc., comment à un moment donné on arrive à dire je, c'est-à-dire à avoir conscience de sa propre existence. Le jour où l'ordinateur aura conscience de sa propre existence, effectivement, là, on pourra vraiment commencer à se poser quelques questions qui relèvent vraiment de l'intelligence. Alors, cela dit, on arrive, à tout à l'heure, ça a été mentionné, à un effet miroir qui est assez intéressant, c'est que dans les techniques, en général, dans la relation qu'on a aux techniques, on a pour beaucoup une relation où la technique est comme une extension des facultés humaines. Aujourd'hui, en fait, c'est presque une duplication des facultés humaines. Et donc, cette duplication, elle va créer un effet miroir. Et quand elle crée un effet miroir, pour revenir au processus artistique, ça veut dire que quand on, en tant que, quelles que soient les pratiques artistiques qu'on a, si on veut travailler avec ce type de dispositif, alors on va être obligé de s'interroger sur notre propre façon de construire une œuvre d'art pour pouvoir la déléguer à une machine. Et par exemple, si on reprend ça dans un autre domaine, celui de la robotique, l'intelligence artificielle incarnée en robotique, là je parle de robots physiques, hein, avec par exemple des robots anthropomorphes, des humanoïdes, eh bien faire marcher un robot, on sait que c'est très compliqué. Et pour pouvoir faire marcher un robot, ben, finalement il faut se réinterroger sur la façon dont nous-mêmes on marche, ce qui est une activité extrêmement complexe. Alors ça veut dire que c'est un peu la même chose chez les artistes, c'est comment on crée si on veut déléguer ça à une machine.
Albertine Meunier, pardonnez-moi. Albertine Meunier.
Oui, en fait, ça me fait penser à un travail sur lequel, que j'accompagne actuellement d'un projet qui s'appelle l'Avant-Galerie Vaucène, où on fait justement une confrontation entre un vrai peintre contemporain, Ronan Barrault, et un artiste IA qui s'appelle Roby Barra. On fait Barra Barrault, c'est un hasard, mais en tout cas, ça fonctionne assez bien. Et en fait, ce qu'on a donné en fait à la machine, en fait, c'est un certain nombre de tableaux de ce peintre contemporain. Et finalement, on a créé des nouvelles. Enfin, l'artiste IA a créé des nouvelles œuvres. Et l'artiste peintre se retrouve confronté finalement à cette production d'œuvres qui lui ressemblent, mais qui ne sont pas vraiment lui. Enfin, qui ne sont pas ses productions. Et en fait, il a tout un tas de sentiments qui va de la colère au souhait de corriger toutes ces erreurs qu'il voit dans ses productions. Donc c'est extrêmement troublant, en fait.
Quand vous dites au souhait de corriger ses erreurs, c'est-à-dire ses erreurs à lui ou les erreurs de son doute, de son clone?
Les erreurs que produit la machine.
Parce qu'on pourrait aussi peut-être avoir l'effet inverse, qui serait peut-être d'ailleurs une tentation un petit peu esquée, justement, de considérer que, au bout du compte, c'est l'intelligence artificielle qui produit l'œuvre la plus parfaite, même si, évidemment, en termes de création artistique, la perfection, ça ne veut pas dire grand-chose, j'imagine, Jérôme Nôtre.
Impossible.
Je crois que ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, au fond, c'est ce qu'on essaie de dire, de la valeur ajoutée de ce recours à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais faute de mieux, j'allais dire. Mais on est d'accord sur le recours, par exemple, à l'ordinateur, recours au machine learning, etc. Enfin, là.
Et est-ce là, qu'on pourrait faire le parallèle, par exemple, avec les exosquelettes, c'est-à-dire qui décuplent la force humaine? Là, ça décuplerait la création artistique des artistes.
Ça ouvre surtout des nouvelles possibilités. Alors concrètement, ça donne quoi? Par exemple, des algorithmes. Quand quelqu'un, je reprends le cas de Miguel Chevalier, fait ses peintures sur ordinateur, en fait, grâce à un algorithme d'autogénérativité, la peinture, si on peut dire, c'est l'image, va être en mouvement à l'infini et ne sera jamais 2 secondes la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est quand on pense que, par exemple, les impressionnistes essayaient de peindre le temps qui passe par des séries, toutes les cathédrales de Rouen, de Monet, par exemple. Et bien là, grâce à ces algorithmes, ce qu'on ne pourrait pas avoir autrement, grâce à cette technologie, on peut confronter l'art à l'infini. Et donc, ça donne quelque chose qui légitime le recours à la technologie. Et donc, moi, ce qui m'intéresse...
Mais ça fait gagner du temps, c'est tout.
Ça fait pas gagner du temps. Ça nous donne un spectacle visuel qui nous fait réfléchir sur la question de l'infini, qui donne des formes et des images inédites qu'on ne pourrait pas avoir avec d'autres médiums, si vous voulez. Quand le cinéma a été inventé, c'était quand même un processus qui a permis l'image en mouvement. Quand j'avais fait, par exemple, le commissaire de l'exposition La Rétrospective Bill Viola ici, le recours à la vidéo Bill Viola et au ralenti dans la vidéo, etc., c'est pas complètement gratuit. C'est un médium qui n'aurait pas pu... c'est quelqu'un qui sait très bien dessiner, Bill Viola. D'ailleurs, un jour, j'aimerais faire une exposition de ses dessins. Il dessine magnifiquement bien. Mais s'il a eu recours à la vidéo, c'est parce qu'il avait besoin d'images en mouvement et de ralentir ce mouvement, etc., de jouer là-dessus. Et c'est ça qui a donné, qui correspondait à la vision du monde qu'il voulait donner. Eh bien, avec les algorithmes, avec l'ordinateur, avec l'intelligence artificielle, avec les exosquelettes dans le cas de certains performeurs, eh bien évidemment, on arrive à une valeur ajoutée de l'œuvre qu'on ne pourrait pas avoir sans.
Alors c'est intéressant ce que vous venez de dire sur Bill Viola qui s'est très bien dessiné, parce que ça pose aussi la question de la compétence, peut-être la compétence technique nécessaire pour l'artiste qui se confronte à cette question de l'intelligence artificielle. Albertine Meunier, est-ce que vous, par exemple, pour créer vos œuvres, vous avez la nécessité d'être en mesure de coder, par exemple? Et est-ce que c'est par le codage que passe, si ce n'est l'essentiel, mais en tout cas une grande partie de votre acte de création artistique?
Dans mon cas, non, en fait. J'aime pas spécialement coder, j'ai fait ça dans ma jeunesse. Et en fait, souvent, dans ce type d'art, enfin, les artistes qui évoluent dans ces technologies, ou sont eux-mêmes artistes codeurs, et en plus développent leur œuvre, la réalisation de leur œuvre, ou se font accompagner par des développeurs. Donc voilà, souvent on est dans des duos comme ça, de création.
Mais au moment de signer votre œuvre, est-ce que c'est vous qui la signez ou est-ce que vous la co-signez avec la personne qui a fait le codage ?
Il y a tout un débat en fait sur les créations en duo. En fait, moi je travaille avec Sylvie Tissot, qui est une développeuse qui accompagne un grand nombre d'artistes. Et donc on désigne que son travail est dans la programmation. Par contre, l'œuvre est sous mon nom. Mais c'est une vraie question en fait.
Comment vous positionnez vous dans ce débat, Samuel Bianchini?
Je pense que aujourd'hui, compte tenu de la complexité du monde, on est de plus en plus amené à travailler en collectif, en pluridisciplinarité, en complémentarité, etc. Donc, et les ingénieurs, la relation qu'on a avec les ingénieurs n'est pas une relation descendante où il y aurait l'artiste qui penserait et ensuite on exécuterait. C'est une relation de dialogue, de co-construction. Alors après,
ce qui est peut-être différent de processus plus classique où l'artiste, même si par exemple si ce n'est pas lui qui va modeler par exemple sa sculpture, est quand même celui qui dirige véritablement la création. Ce ne sont pas ceux qui réalisent.
On a différentes configurations. Par contre, je crois que c'est vraiment important aujourd'hui de penser les crédits qui rendent compte des configurations. Et par exemple, dans le cas de Sylvie Tissot, avec laquelle j'ai travaillé aussi, certaines fois, Sylvie vient pour faire du développement dans un projet que je porte. Et dans certains cas, par exemple, dans une œuvre qui s'appelle En réalité, avec un S à réalité, eh bien, c'est une œuvre qu'on a co-signée. Où là, d'un seul coup, Sylvie devient aussi le co-auteur de l'œuvre parce que c'est une œuvre qui va travailler sur des problématiques qui sont aussi ces problématiques de recherche sur l'informatique quantique.
On pourrait dire que l'art créé avec l'intelligence artificielle, Jérôme Neutte, c'est peut-être plus que jamais un art de la coopération.
Oui, mais rien de nouveau sous le soleil, Hervé, puisque finalement, regardez, quand il y a eu l'exposition du centenaire Rodin dans les Galeries Nationales du Grand Palais, il n'y avait aucune sculpture qui avait été créée par Rodin. Il ne faisait même pas les plâtres lui-même, Rodin.
Sauf qu'il était capable de le faire.
Je ne sais pas, en tout cas. C'est vous qui le dites. En tout cas, il ne les a pas fait. Donc, on peut toujours dire qu'il était capable. Il ne les a pas fait. C'est ça qui compte. Les plus grands cinéastes ne sont pas forcément ceux qui tiennent la caméra dans leurs films. Vous savez, il y en a qui tiennent la caméra, mais ce n'est pas forcément les meilleurs cinéastes. Donc, une fois de plus, le rapport de la technique Et de l'art, on sait que c'est quelque chose d'une coopération et que l'artiste n'est pas forcément le meilleur technicien. Mais ce qui est important, c'est de poser ces questions et de ne pas, je crois, séparer d'un coup, comme dans un ghetto, l'intelligence artificielle, comme on a voulu le faire en 100 ans avec le cinéma, avec la vidéo, avec la photographie avant. Enfin, c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau médium, on se dit non, c'est pas ça l'art, parce qu'on s'est cantonné dans une image d'Épinal. L'artiste, il est avec son chevalet, avec sa toile de lin, ses couleurs, si possible pauvre et maudit, en se coupant une oreille. Et là, on a tout. Non, ça nous permet, et c'est ça qui est le plus intéressant, et ce soir ça le prouve ce débat, ça nous permet de nous réinterroger sur ce que c'est que l'art et ce qu'est un artiste. Ça, c'est bienvenu.
Et d'ailleurs, il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé, je voudrais qu'on l'évoque pour terminer cette discussion, c'est le public. Est-ce que le public, puisqu'on s'intéresse à la question ce soir qui est la suivante, je le rappelle, l'intelligence artificielle va-t-elle créer un art plus humain ? Est-ce que un des changements qui est induit justement par l'IA dans le processus créatif, il n'est pas aussi de permettre au public d'interagir peut-être comme jamais avec une œuvre artistique, Samuel Bianchini? Je pense par exemple à un des dispositifs que vous avez mis en place qui s'appelle Discontrol Party. Alors il faut peut-être d'abord commencer par expliquer de quoi il s'agit et ensuite comment le public interagit avec cette œuvre.
Oui, alors c'est Discontrol Party, c'est un gros dispositif pour faire la fête. Donc c'est un dispositif, c'est une sorte de salle de contrôle avec plein de systèmes de captation, des faits et gestes du public. Et on rend compte de l'ensemble de ces mouvements, de ces actions à travers des visualisations des données du public, des visualisations de leurs relations. Il se trouve que la plupart de ces technologies d'interaction, qui sont aussi des technologies de contrôle, vivent très mal le fait que les corps soient indisciplinés. Si par exemple deux personnes se mettent à s'embrasser sous une caméra de surveillance, elles vont perturber tout le système de reconnaissance faciale. Alors imaginez si on s'embrasse à plus de deux, ça devient très vite le cirque, et en fait il y a une perte de contrôle de ces dispositifs dès lors que on est dans un irrespect des normes sociales corporelles.
Donc alors, l'idée, c'est de dire au public et aux humains, finalement, vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle sur les machines.
C'est de mettre en scène un conflit. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est ces mises en scène de conflits, et en l'occurrence de mettre en scène un conflit joyeux. Et donc, effectivement, d'amener la possibilité de perturber des systèmes qui sont de plus en plus prégnants. On parle beaucoup des données personnelles, etc. On peut le faire aussi peut-être de façon un peu décalée. Alors cela dit, pour revenir aussi sur la question plus générale, en relation au public, alors ici on voit que c'est un public éminemment interactif, un public interactif et une œuvre interactive, un dispositif interactif, et pour le peut-être résumer très vite les choses, je crois qu'on est passé d'un régime de l'installation au dispositif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, précisément, une des nouvelles dimensions artistiques à explorer de plus en plus, c'est la dimension opératoire. On le disait tout à l'heure que la temporalité est importante, mais les processus qui se jouent en général avec l'intelligence artificielle, ou en tout cas ce qui tend à être, ce qui souhaiterait être de l'intelligence artificielle, le deep learning, les algorithmes, etc., ce sont des processus qui se jouent dans le maintenant, ce sont des processus qui se jouent dans le temps réel, et même parfois qui essayent d'aller dans le prédictif. Donc c'est fondamentalement événementiel et opératoire. Et il me semble que la nature du travail artistique dans lequel on est aujourd'hui est beaucoup, questionne beaucoup ce registre opératoire de l'art.
Est-ce que c'est aussi le cas de la data dancing saucisse party Albertine Meunier, qu'il faut également nous expliquer, et qui me semble assez, assez proche de ce que vient de nous expliquer Samuel Bianchini?
Oui, c'est assez proche, un petit peu plus, même dans les mêmes décalages, avec un ton peut-être un peu différent. Donc la data dancing saucisse party, c'est une œuvre du collectif Data Bingo auquel j'appartiens, et qui est assez simple en fait, qui est un dispositif dans lequel on interpelle le public. Donc le public doit se déguiser en saucisse, et tout le jeu en fait, donc plutôt à plusieurs, et tout le jeu va être d'apprendre un programme de machine learning en fait à apprendre un geste associé à un son, et donc le public doit créer sa chorégraphie musicale en quelque sorte, et donc les gens sont en très peu de minutes, finalement, le programme apprend. Voilà, donc on est vraiment dans les systèmes apprenants que crée l'intelligence artificielle. Donc nous, ce qu'on montre, c'est que on peut apprendre très très vite à reconnaître une image et qu'est-ce qu'on peut produire par l'interaction de cette image avec le public.
Est-ce qu'il y a aussi l'idée de dire tout le monde est en capacité d'être artiste parce que tout le monde est en capacité d'interagir avec une intelligence artificielle qui fait de la création?
C'est possible de se déguiser en saucisse et puis de créer une œuvre musicale. Ça, en tout cas, c'est possible. Donc on est dans un processus créatif. Je ne sais pas si chaque individu serait dans ce cas-là spectateur artiste, mais en tout cas on montre qu'on peut créer assez facilement des dispositifs.
Mais alors si on emmène des machines, Jérôme Neut, de l'intelligence artificielle et qu'en plus on fait participer le public au processus de création, là dans le milieu artistique, il se peut quand même qu'il y ait quelques dents qui grincent, non? Notamment la FIAC, où nous sommes.
Mais vous savez, l'art est participatif par définition.
Plus ou moins, quand même. Il y a quand même une verticalité
un tableau. Alors, l'interactivité, elle existe depuis le début de l'art, dans la performance, le fait même de regarder un tableau, c'est la phrase de Claudel, c'est l'œil qui écoute, c'est actif, ça nous rend actif l'art, ça ne nous rend pas passif. Différence, par exemple, entre le cinéma et la télévision, diraient certains. La question que vous posez aujourd'hui, c'est est-ce que cet art, ça va nous donner un art plus humain? Est-ce que ce recours à la technique va nous donner un art plus humain? Je dirais que surtout, il va nous donner un art plus original. Parce que finalement, quand on regarde beaucoup de productions artistiques, on a l'impression que les artistes sont des robots. Ils ne sont pas que les artistes qui utilisent les robots, mais que les artistes sont des robots tant ils répètent tout ce qui s'est déjà fait depuis 100 ans, depuis 60 ans. Et voilà, pour pas gêner personne, je ne donnerai pas d'exemple. Mais en tout cas, dans les artistes dont on vient de parler, qui sont là aussi, et de tous ces artistes qui utilisent ces nouvelles technologies, ce sont des pionniers, ce sont des inventeurs qui osent aller chercher de nouvelles images et de nouvelles formes et de nouveaux imaginaires. Ça, c'est très rafraîchissant.
Est-ce qu'il y a aussi de rafraîchissant? Alors, on est essentiellement parlé, bien sûr, ce soir des arts plastiques, mais on aurait pu aussi évoquer la question de la musique. Il a beaucoup été question, il y a quelques mois de cela, d'une musique qui avait été composée par une intelligence artificielle. Alors là aussi, ça a été présenté de manière à intéresser beaucoup, notamment les médias. Donc, c'est toujours, on va toujours vers des raccourcis. Mais il y a quelque chose que vous, Albertine Meunier, vous avez fait, c'est-à-dire plutôt que de faire créer de la musique par une intelligence artificielle, vous êtes dit, moi je vais faire une chanson que je vais créer moi, Albertine Meunier, et qui va être dédiée à l'intelligence artificielle. Ça s'appelle l'IA, et c'est une sorte d'hommage, presque un message d'amour finalement, à ces techniques, à ces algorithmes qui font à ce point partie aujourd'hui de la création artistique.
Intelligence artificielle, fais de moi une jouvencelle. Quand je lui passe ma cervelle, IA, IA. IA. Tu m'allumes des étincelles, je respire la eau éternelle. Je me réjouis comme une gazelle.
Première chanson d'amour, me semble-t-il, en tout cas à ma connaissance, dédiée par un humain à une intelligence artificielle. C'est signé Albertine Meunier. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Samuel Bianchini et Jérôme Neut. Discussion que vous pourrez réécouter sur franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, en particulier Antoine Tricot et Alexandre Fougeron qui réalise comme chaque soir l'émission. Merci à Rémi Gouriot, chargé de production ici à la FIAC, Alexandre James, Christian Lahondès et Alice Sayed pour la prise de son. Dans 3 minutes environ, Arnaud Laporte, vous allez prendre la suite, toujours à la FIAC pour la dispute.
Absolument, ça va être le cas dans 3 minutes. On va parler d'art plastique ce soir. J'aurais bien aimé entendre la chanson en entier. J'aurais bien aimé que Jérôme nous donne des noms un peu, mais bon.
Ce sera pour la prochaine fois.
Est-ce que vous savez qui fait les titres d'actualité dans le beau studio de France Culture, puisque Aurélie Kiefer est en formation, me semble-t-il?
Je crois que c'est Sophie Delpont.
Bon, j'espère que c'est elle. Et en tout cas, c'est 19h, France Culture, les titres de l'actualité.